Hector Hugh Munroe, Sredni Vashtar. Quand Radin avait 10 ans, et le médecin avait donné son opinion professionnelle, selon laquelle le garçon ne vivrait pas 5 années de plus. Le docteur était suave et mou, et ne comptait guère. Mais son opinion avait reçu l'aval de Mrs. de Ropp, qui comptait pour presque tout. Mrs. de Ropp était la cousine et la tutrice de Conradin, et à ses yeux elle représentait les 3/5 du monde qui sont nécessaires, antipathiques et réels. Les autres 5/5, en perpétuel antagonisme avec les précédents, se réduisaient à lui-même et son imagination. Un de ces jours, Conradin supposait qu'il succomberait à la pression dominatrice des choses lassantes et nécessaires, telles que la maladie, l'absence de tendresse et l'interminable ennui. N'eût été son imagination, qui se déchaînait sous l'impulsion de la solitude, il aurait succombé depuis longtemps. Jamais Mrs. de Ropp, dans ses moments les plus honnêtes, n'aurait admis qu'elle détestait Conradin, bien qu'elle eût peut-être été vaguement consciente que le contrecarrer pour son bien était un devoir qu'elle ne trouvait pas particulièrement pénible. Conradin la haïssait avec une sincérité désespérée qu'il était tout à fait capable de dissimuler. Les rares plaisirs qu'il pouvait s'inventer acquéraient une saveur supplémentaire de la quasi-certitude qu'il déplairait à sa tutrice. Et du royaume de son imagination, elle était fermement exclue, comme une chose malpropre qui n'y aurait jamais accès. Le jardin assommant et morne, surveillé par tant de fenêtres, prêtes à s'ouvrir pour laisser passer une interdiction de faire ceci ou cela, ou un rappel qu'il était l'heure des médicaments, lui offrait peu d'attrait. Les quelques arbres fruitiers qu'il contenait étaient un domaine jalousement prohibé, comme si c'était de rares spécimens de leur espèce fleurissant dans un désert aride. Et il eût sans doute été difficile de trouver un maraîcher prêt à offrir 10 shillings de l'entière récolte annuelle. Cependant, dans un coin oublié, presque caché derrière un lugubre massif d'arbustes, il y avait une cabane à outils, de proportions respectables, qui n'était plus utilisée, et à l'intérieur de ses murs, Conradin trouvait un refuge, un endroit qui revêtait les aspects variés d'une salle de jeu et d'une cathédrale. Il l'avait peuplé d'une légion de fantômes familiers, empruntés en partie à des épisodes historiques, et en partie née de son propre cerveau. Mais elle renfermait aussi 2 résidents de chair et de sang. Dans un coin vivait une poule de houdans au plumage dépenaillé, sur laquelle le garçon déversait une affection qui n'avait guère d'autre exutoire. Plus au fond, dans l'obscurité, se tenait une cage, divisée en 2 compartiments, dont une était munie à l'avant d'une grille aux barreaux serrés. C'était la demeure d'un grand furet putois, qu'un garçon boucher amical avait un jour introduit en catimini, avec sa cage, en échange d'un magot de petites pièces d'argent longuement tenues cachées. Conradin avait terriblement peur de la bête souple, aux crocs aigus, mais c'était son bien le plus précieux. Sa seule présence dans la cabane à outils était une joie secrète et pleine de crainte, qu'il fallait scrupuleusement soustraire à la connaissance de la femme, comme il surnommait privément sa cousine. Et voici qu'un jour, se servant de Dieu sait quel matériau, il imagina pour la bête un nom merveilleux. Et à partir de ce moment, elle devint un dieu et une religion. La femme s'adonnait à la religion 1 fois par semaine dans une église voisine, et emmenait avec elle Conradin, mais pour lui, l'office religieux était un rite étranger dans le temple de Rimmon. Tous les jeudis, dans le silence sombre et sentant le renfermé de la cabane à outils, il rendait un culte selon un cérémonial mystique et compliqué devant la cage en bois où demeurait Sredni Vashtar, le grand furet. Des fleurs rouges en leur saison et des baies écarlates en hiver étaient offertes dans ce sanctuaire, car c'était là un dieu qui mettait un accent particulier sur l'aspect féroce et impatient des choses, à l'inverse de la religion de la femme qui, à ce que Conradin pouvait observer, allait très loin dans la direction opposée. et les jours de grande fête, de la noix de muscade en poudre était répandue devant la cage, un trait important de l'offrande étant que celle-ci avait été volée. Ces fêtes avaient lieu de façon irrégulière et étaient avant tout dédiées à quelque événement passager. En une occasion, quand Mrs. d'Europe souffrit d'une rage de dents qui dura 3 jours, Conradin fit durer la fête pendant 3 jours entiers et faillit se persuader que Sretne Vashtar était responsable du mal de dents. Si le mal avait duré 1 jour de plus, la provision de muscade eût été épuisée. La poule de Houdan ne fut jamais associée au culte rendu à Sretne Vashtar. Conradin avait depuis longtemps décidé qu'elle était une anabaptiste. Non qu'il prétendît avoir la moindre idée de ce qu'était un anabaptiste, mais en son fort intérieur, il espérait que cela avait du panache et était peu respectable. Mrs. d'Europe était la pierre de touche sur laquelle il fondait sa haine de toute respectabilité. Au bout d'un moment, l'intérêt de Conradin pour la cabane à outils commença à attirer l'attention de sa tutrice. Ce n'était pas bon pour lui d'y traîner par tous les temps, décida-t-elle promptement, et un matin, au petit déjeuner, elle annonça que la poule de Houdan avait été vendue et emportée pendant la nuit. De ses yeux myopes, elle scruta Conradin, attendant une explosion de rage et de chagrin, qu'elle s'apprêtait à réprimander avec un flot d'excellents préceptes et de raisonnements. Mais Conradin ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Quelque chose peut-être dans son visage blanc et figé fit naître en elle un scrupule momentané, car au goûter de cet après-midi-là, il y eut du pain grillé sur la table, friandise qui était habituellement bannie, sous prétexte qu'elle était mauvaise pour lui, et aussi que la préparer donnait du travail, offense mortelle aux yeux féminins de la classe moyenne. « Je croyais que tu aimais les toasts, » s'exclama-t-elle d'un air vexé, ayant observé que Conradin n'y touchait pas. « Quelquefois, » dit Conradin. Dans la remise ce soir-là, il y eut une innovation dans le culte rendu au dieu de la cage. Conradin avait eu pour habitude de psalmodier ses louanges. Ce soir-là, il demanda une faveur. « Rends-moi un service, Sretne Vashtar. » La nature de ce service ne fut pas précisée. Comme Sretne Vashtar était un dieu, on devait le supposer au courant. Et, refoulant un sanglot tandis qu'il regardait l'autre coin désormais vide, Conradin retourna dans le monde qu'il haïssait tant. Et toutes les nuits, dans l'obscurité bienvenue de sa chambre, et chaque soir, dans la pénombre de la cabane à outils, l'amère litanie de Conradin montait. « Rends-moi un service, Sretne Vashtar. » Mrs. d'Europe remarqua que les visites à la remise n'avaient point cessé, et un jour elle fit un autre voyage d'inspection. « Qu'est-ce que tu élèves dans cette cage verrouillée ? » demanda-t-elle. « Je crois bien que ce sont des cochons d'Inde. Je vais les faire enlever. » Conradin serra les lèvres, mais la femme fouilla sa chambre jusqu'au moment où elle trouva la clé soigneusement cachée, et aussitôt elle se dirigea d'un pas ferme vers la remise pour compléter sa découverte. L'après-midi était froide, et Conradin avait été prié de ne pas quitter la maison. Depuis la fenêtre la plus éloignée de la salle à manger, on pouvait tout juste apercevoir la porte de la remise derrière le coin du massif d'arbustes, et c'est là que Conradin se posta. Il vit la femme entrer, puis il l'imagina ouvrant la porte de la cage sacrée et s'efforçant de plonger son regard de myope dans l'épaisse couche de paille dans laquelle son dieu gisait caché. Peut-être allait-elle sonder la paille du doigt dans son impatience maladroite. Et avec ferveur, Conradin murmura sa prière pour la dernière fois. Mais il savait tout en priant qu'il n'y croyait pas. Il savait que la femme allait bientôt sortir, avec, sur son visage, ce sourire pincé qu'il détestait tant, et que dans 1 heure ou 2, le jardinier emporterait son admirable dieu, qui n'en serait plus un, mais un simple furet brun dans une cage. Et il savait que la femme triompherait toujours, comme elle triomphait maintenant, et qu'il deviendrait de plus en plus souffreteux sous l'empire de sa sagesse importune, autoritaire et supérieure, jusqu'au jour où rien n'aurait plus grande importance pour lui et qu'il serait prouvé que le docteur ne s'était pas trompé. Et, sous l'aiguillon et la disgrâce de sa défaite, il se mit à psalmodier d'une voix forte et pleine de défis l'hymne à son idole menacée. Sretni Vashtar sortit pour se battre. Ses pensées étaient de rouges pensées et blanches étaient ses dents. Ses ennemis demandèrent la paix, mais il leur apporta la mort. Sretni Vashtar le magnifique. Et puis soudain, il s'arrêta de psalmodier et s'approcha de la vitre. La porte de la remise était toujours entr'ouverte comme elle l'avait laissée, et les minutes s'écoulaient. C'étaient de longues minutes, mais elles n'en passaient pas moins. Il observa les étourneaux qui couraient et voltaient par petits groupes sur toute la pelouse. Il les compta et les recompta, ne quittant pas de l'œil cette porte battante. Une servante au visage revêche entra pour mettre la table du goûter. Et toujours Conradine restait là, attendant et observant. Pouce par pouce, l'espoir était entré dans son cœur. Et à présent, une lueur de triomphe commença à flamboyer dans ses yeux, qui n'avaient jusqu'ici connu que la patience mélancolique de la défaite. Parlant tout bas avec une furtive exaltation, il recommença le péant de victoire et de dévastation. Et bientôt, ses yeux furent récompensés. Se faufilant par la porte, apparut une bête longue, basse, jaune et brune, clignant des yeux dans le jour déclinant, des taches sombres entourant la fourrure des mâchoires et de sa gorge. Conradine tomba à genoux. Le grand furet descendit vers le petit ruisseau au pied du jardin, but un moment, puis franchit un petit pont de planche et se perdit dans les buissons. C'est ainsi que disparut Sredni Vashtar. « Le thé est prêt, » dit la servante à l'air revêche. « Où est la maîtresse ?»« Elle est descendue à la remise il y a quelques minutes, » dit Conradine. Et tandis que la servante allait inviter sa maîtresse à venir goûter, Conradine préleva une fourchette à griller le pain du tiroir du buffet et se mit à griller un toast. Et pendant qu'il le grillait, le beurrait généreusement et faisait durer le plaisir de le manger, Conradine écouta les bruits et les silences qui tombaient en ondes rapides derrière la porte de la salle à manger. Les hurlements sonores et stupides de la servante, le chœur d'exclamations étonnées qui répondit depuis les abords de la cuisine, les pas rapides et les ambassades pressées pour appeler l'aide de l'extérieur, et puis, après une accalmie, les sanglots terrorisés et le bruit des pas traînants de ceux qui portaient un lourd fardeau dans la maison. « Qui est-ce qui va annoncer la nouvelle au pauvre enfant ? Je m'en sens totalement incapable !» s'exclama une voix aiguë. Et tandis qu'ils discutaient entre eux du problème, Conradine se grilla un autre toast.